le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission de Grain de Sable. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Claude Massot de l'association La LDH qui vient nous parler d'un sujet d'actualité, enfin plus ou moins d'actualité, on verra, sur le droit de vote des étrangers. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, c'est vrai qu'il est l'heure finalement de dire bonsoir. Alors, quelle est la situation actuelle en France sur le droit de vote en général et plus particulièrement sur le droit de vote des étrangers ou des immigrés, déjà, comment on dit comment...
Aujourd'hui, on parle plus des étrangers. Il y a, dans les années 70, on parlait des immigrés. Et tout est lié un petit peu. L'évolution du langage correspond aussi à des évolutions des préoccupations. Mais pour commencer, donc, vous avez parlé de la Ligue des droits de l'homme. Donc là, j'interviens à la fois au nom de la Ligue des droits de l'homme, mais plus largement de la part du ce qu'on appelle le comité départemental pour le vote, pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc c'est quelque chose d'assez précis, qui correspond à ce qui s'appelle le collectif Votation Citoyenne Nationale, qui regroupe 80-90 associations, organisations syndicales, partis politiques, qui se préoccupent du droit de vote des étrangers en France.
D'accord.
Alors, situation actuelle en France sur le droit de vote. C'est une bonne question. C'est surtout quelque chose qui a beaucoup évolué. Le droit de vote en général est quelque chose qui, contrairement à souvent ce qu'on entend, n'est pas figé. Et au cours des années, au cours des siècles, a beaucoup changé. Déjà, on parle de droit de vote principalement en France depuis la Révolution française. Avant, les choses se passaient un peu différemment. La collecte et la répartition des impôts se passaient de manière différente jusqu'à la Révolution. Et le droit de vote a bougé. Si on prend par exemple, prenons quelques exemples sur le droit de vote en France, vous avez eu, après la Révolution française, donc une possibilité pour un certain nombre de Français mâles, des hommes uniquement, qui présentaient certaines caractéristiques. Il fallait qu'ils aient payé un impôt correspondant à 3 jours de travail pour pouvoir participer à des élections. Et petit à petit, ça a évolué. Il a fallu attendre 1848 pour que tout le monde, pour qu'on ait un suffrage universel, pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Que tous les hommes puissent voter de manière non censitaire, indépendamment des impôts payés. Et il a fallu attendre pas mal d'années pour que les femmes puissent voter. Et ça, c'était quelque chose de très important. Donc, juste après la guerre. Et c'est pas tout. Les militaires, dans la foulée, après les femmes, ont pu voter. En France, les militaires qui devaient avoir une position neutre par rapport à ce qui se passait en France ne votaient pas. C'est seulement en 1940 et quelques qu'ils ont pu, 46 je crois, comme les femmes, ils ont pu voter. Et puis il y a eu ensuite le vote des jeunes à partir des 18 ans. Donc on a à peu près une évolution on voit que c'est pas quelque chose de figé. Et tous les débats qu'il y a aujourd'hui, faut bien les regarder dans ces perspectives historiques et non pas de manière figée dans les polémiques que l'on entend, qui sont très marquées aujourd'hui. C'est toujours les mêmes thèmes qui sont abordés pour polémiquer, des thèmes qui séparent les gens. C'est une habitude peut-être française, mais il faut absolument sortir de cette vision immédiate et cette vision polémique, je crois, si on veut comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que vous posez la question sur la situation actuelle, ça débouche bien sûr sur quelle sera la situation demain sur le vote en général. Alors,
c'est vrai que La question, c'était, voilà, qu'en est-il du droit de vote aujourd'hui? Je pense que vous avez fait un petit panorama assez intéressant sur l'évolution des choses. Qu'entend-on, en fait, par droit de vote des étrangers aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des étrangers qui peuvent voter en France aujourd'hui? Est-ce que tous les étrangers sont dans une situation égalitaire par rapport à ça?
Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite.
D'accord.
Parce que j'ai envie de dire des choses, donc...
Allez-y.
Mais je crois que c'est un peu l'esprit de l'émission.
Tout à fait.
Donc, il n'y a pas que les étrangers, par exemple, qui ont des difficultés pour voter en France ou qui ne peuvent pas voter. Il y a eu, par exemple, il y a eu parce que c'est en train de bouger, des difficultés pour les gens du voyage. Les gens du voyage qui sont soumis à des lois relativement restrictives parce que considérés comme vagabonds, considérés donc comme population dangereuse, avec la loi de 1912, ont été, et puis la loi de 1969 qui est arrivée après, avaient une obligation, et si je dis « on avait », c'est que c'est pas vieux le changement, avaient une obligation d'être rattachés à une commune pendant 3 ans
pour pouvoir voter. Tout à fait.
Alors, pour la plupart des gens, c'est soit on est domicilié, soit on est résident depuis 6 mois, soit on a payé pendant 5 ans des impôts locaux, hein, qui sont les conditions, en plus avoir 18 ans, et avoir ses droits civiques. Hein, ce sont les conditions pour voter. Mais eux, c'était 3 ans. Donc, il y a des catégories de la population qui avaient un traitement spécial. Il y a d'autres catégories qui, théoriquement, ont le droit de voter et pour qui c'est difficile. Il y a un certain nombre de personnes handicapées, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés parce que souvent l'encadrement ne veut pas les transporter les jours où ils doivent voter. Et il y a, bien sûr, en prison, les prisonniers.
Les détenus, c'est
Alors,
vrai.
Les détenus, c'est quelque chose d'assez... Comment dire ? Il n'y a pas forcément, et ça éclaire pour d'autres catégories de personnes, il n'y a pas forcément une envie très forte de voter quand on est en prison. Une grande partie des gens qui sont en prison sont les gens les plus pauvres de la société. Enfin, il y a une relation entre aller en prison et le niveau de vie qu'on peut avoir dans la société. Et il n'y a pas une grande demande. Et là, il n'y a pas non plus de bureau de vote dans les prisons. Il y a une demande qui a été faite plusieurs fois par un certain nombre de personnes. Et jusqu'à maintenant, ce qui est opposé, c'est que des bureaux de vote dans les prisons s'opposent au code électoral. Comme le code électoral demande à ce qu'il y ait la publicité au moment du dépouillement, qu'il puisse y avoir une certaine liberté d'aller et venir, ça semblait difficile. Et les responsables de la politique pénale, jusqu'à maintenant, s'y sont refusés. Mais ça se discute, c'est une chose qui est discutée. Donc la seule chose qui reste pour des prisonniers, c'est le vote par procuration, pratiquement. Donc vote par procuration, soit à l'endroit où ils ont encore une résidence, mais c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours le cas.
C'est pas le cas, parce que s'ils sont pas restés sur place un certain temps, ils sont radiés des listes,
oui.
Et non, alors sinon, il faut trouver sur place, ils sont domiciliés par la prison, il faut trouver sur place quelqu'un qui accepte de porter de prendre la procuration, et on ne peut pas avoir plus de deux procurations, donc c'est très difficile. Résultat, je crois que c'est entre 1 et 2% la participation au vote dans les prisons françaises.
Par exemple, un détenu à la maison d'arrêt de Corbin, il faut qu'il trouve finalement quelqu'un qui habite Corbin pour accepter de voter pour lui.
Je crois, oui.
C'est ça.
Je crois.
Oui, donc c'est très compliqué en plus de trouver quelqu'un, la même connaissance pour une personne qui vit pas forcément dans la région, qui est pas forcément originaire de la région.
Voilà.
Donc c'est vrai que c'est
très
compliqué.
Oui. Alors bon, il y a des possibilités, par exemple, bon, si vous avez moins de 5 ans à faire, on peut demander une permission pour aller voter, mais c'est accordé après selon la décision du directeur de la prison. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que on parle du vote des étrangers, c'est très important, mais il y a d'autres catégories en France de gens qui ont des difficultés pour voter. Voilà. Donc ça, c'est sur le droit de vote et les différentes personnes dans une démocratie, alors qu'on pense que tout le monde peut voter, qui, eux, ne votent pas. Alors maintenant, qu'entend-on
par droit de vote des étrangers
aujourd'hui? Je crois qu'il faut être très précis. Il faut surtout pas... faut bien regarder de quoi on parle. Et quand on parle du droit de vote des étrangers aujourd'hui, c'est le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, donc aux élections communales, Et c'est restrictif, puisque les différents projets de loi depuis pas mal d'années indiquent bien que c'est sans pouvoir devenir maire et sans pouvoir participer aux élections sénatoriales. Donc, sans pouvoir avoir une action sur la politique nationale. C'est uniquement au niveau de la commune. Donc, c'est restrictif comme aujourd'hui... Les résidents en France de la communauté européenne, de l'Union européenne, peuvent voter aux élections locales en France.
C'est vrai.
Depuis 1992, Maastricht a ouvert cette possibilité. C'est ce qui rend d'ailleurs incompréhensible le fait que ça soit possible
pour certains,
avec des guillemets étrangers,
voilà,
et pas pour d'autres.
Voilà.
Donc ça fait partie des contradictions et en même temps de l'ouverture. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la... Comment dire Pourquoi a-t-on des difficultés en France, alors que dans plusieurs pays, et dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, on peut voter. Et dans le monde, il y a une soixantaine de pays où, sur 100, un peu moins de 200 pays, hein, dans le monde, 60 et quelques, ont une ouverture au vote des étrangers dans leur pays. Et pourquoi en France aussi, on a certaines difficultés? Ça peut en partie aussi, provenir... pas seulement de blocage idéologique, mais aussi de blocage dans l'organisation de la France qui, pour le vote, passe par la Constitution. Les gens qui peuvent voter en France, et ça c'est défini par la Constitution, c'est son article 3, sont électeurs en France les nationaux. Donc les nationaux, c'est les gens qui ont la nationalité française, qui ont ce qu'on appelle la possession d'État de français. Et alors déjà, là, il y a une première chose, c'est l'article 3, donc c'est tout le début de la Constitution, c'est fort pour la nation. Et écrit sous la forme « sont électeurs les nationaux », a priori, je dirais, moi, ça n'exclut pas d'autres qui pourraient aussi voter.
C'est vrai.
Il
n'y
a pas marqué seuls les nationaux.
Seuls les nationaux, c'est vrai.
Et à telle enseigne que, comme il ne faut pas, ça, c'est le marbre un peu, l'article 3, c'est le marbre de la Constitution, il ne faut pas y toucher. Et quand en 1992, Maastricht a demandé à faire ratifier dans chaque pays la possibilité pour tous les membres de des États de l'Union européenne, lorsqu'ils étaient résidents dans un pays étranger, de pouvoir voter aux élections locales du pays où ils étaient résidents et aussi aux élections européennes, à ce moment-là, il a été décidé de ne pas toucher à cet article 3, et c'est un article 88, je crois, qui a été créé, où là, il est dit que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les étrangers résidents de l'Union européenne peuvent voter, mais dans des conditions où ils ne seront ni maires ni représentants de leur commune pour voter grand électeur au sénatorial. Donc, on a déjà là un petit point qui rend la chose plus difficile, parce que en Belgique, par exemple, où ils ont appliqué Maastricht tout de suite, ils bloquaient bien avant en Belgique, hein, mais à partir de 92, ils ont appliqué Maastricht tout de suite. Et là, c'est une simple loi. Donc une loi qui demande que la majorité, 50%...
Qui peut être modifiée plus facilement.
Alors là, c'est un autre aspect. Je ne vais pas vous lire toute la Constitution. D'ailleurs, je ne l'ai pas sous les yeux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça a été beaucoup discuté cet an dernier. C'est que pour modifier la Constitution, ben, il ne suffit pas d'une simple majorité. Ça fait partie de ce qui fait marcher le pays, l'État-nation depuis pas mal d'années. Et quand on y touche, il faut un gros consensus. Donc il n'y a que deux manières de changer la Constitution. C'est soit par le référendum, soit par un vote de 60%, des 3/5 du Congrès réuni à Versailles, donc de la réunion des sénateurs et des députés. Donc les 3/5 des présents, à ce moment-là, des suffrages exprimés, peuvent changer la Constitution. Ça s'est fait à différents moments, donc, entre autres pour Maastricht, hein, ça s'est fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, on en est là. Et c'est ce qui fait qu'il y a un peu d'hésitation, quelquefois, à employer ces gros moyens et qui fait que ça prend... C'est toujours repoussé.
C'était repoussé. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de reprendre notre sujet de discussion. Anu segela,
t'arrêter une nuit où le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur.
Je me suis planqué comme un renard, train d'atterrissage d'un avion, dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur.
Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police,
silencieux au bord du précipice. C'est ta fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si Jacques Delors c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Musique et musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors,
jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police,
silencieux au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors,
travaillé au noir jusqu'à la mort.
Alors nous parlions juste avant la coupure des possibilités de modifier la Constitution et on parlait notamment du référendum. Quelle est justement la position de la population française par rapport à cette question du droit de vote des étrangers aujourd'hui ?
Il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été faits et très souvent c'est les sondages un peu qui sont derrière les décisions qui sont prises par les responsables des politiques. Et au cours des 15 dernières années, BVA principalement qui a fait des sondages, on voit une courbe qui a progressé, hein, qui était en dessous de 50% il y a 10-15 ans et qui est passée au-dessus de 50, entre 50, plus de 55 même dans les sondages l'année dernière. Par contre, le dernier sondage là a rebaissé un peu, hein, il a réfléchi. Je pense entre autres à cause des polémiques qui sont nées de la préparation du thème lui-même sur le vote des résidents étrangers, qui a été pris comme thème de clivage à la fois dans la campagne présidentielle et qui sera pris aussi dans les campagnes municipales si jamais ce thème revenait. Donc une évolution assez positive qui est montée au-dessus de 50%, avec des fois des choses surprenantes. Par exemple, il y a eu un sondage qui a été fait en, je crois que c'était en octobre 2001. Donc, dans le mois qui a suivi les attentats à New York, qui, où les tours sont, de Manhattan sont tombées, là, il y a eu une chute. Il y a eu une chute importante où c'est repassé en dessous de 50. Il y a eu une chute de 10 ou 15% à ce moment-là. Il y a eu une autre chute, je pense qu'on pouvait, deux ans après, qu'on pouvait imputer peut-être aux attentats du métro de Madrid. Donc, on sent, il semblerait que des événements qui, a priori, ne sont pas du tout liés à ce thème, ont une influence dessus. Alors, je prends ces exemples et j'essaye d'attribuer une responsabilité à ces événements, mais ça paraissait tellement marquant de voir ces, quand on regarde les courbes, de voir ces deux descentes, une grande descente en 2001 et une petite descente deux ans après, que, on voit pourquoi souvent les hommes politiques ne vont pas vouloir utiliser le référendum. Alors moi, je prends toujours le même exemple. Je prends d'ici aujourd'hui, la peine capitale qui apparaît comme un passage de la barbarie à la civilisation, enfin quelque chose d'assez positif dans l'évolution humaine. Il suffirait de proposer un référendum et que dans la semaine qui précède, il y ait un enfant qui soit l'objet de violences très fortes et tout, médiatisé, montré à la télévision, pour que la peine de mort revienne. Donc, on peut comprendre que nos intermédiaires, nos représentants politiques, par rapport au référendum, sur des sujets très importants qui peuvent être sensibles à des réactions affectives et à des événements médiatisés, on peut peut-être comprendre qu'ils hésitent un petit peu à l'utiliser. Alors, il y a des débats là-dessus, hein, mais c'est une des raisons pour laquelle le référendum pratiquement n'est pas utilisé. Donc ce qui est utilisé, c'est l'autre voie plutôt, enfin celle qui est proposée, ça sera celle-là. Mais Si on regarde un peu l'histoire, peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas si c'était une de vos questions, mais sur les gens favorables, les organisations politiques favorables à ce vote.
Si, si, c'est une question, on peut en parler maintenant.
On peut ?
Oui,
bon,
bien sûr.
On va en parler alors. Il y a, là, sur les pour et contre. Réel, si on regarde les déclarations d'hommes politiques, de femmes et d'hommes politiques, ou les programmes d'organisations politiques, il y a une différence. Donc on va trouver dans les programmes, généralement, toutes les organisations de gauche ont dans leur programme, ont mis plus ou moins haut dans leur programme, ont mis le droit de vote pour les résidents étrangers. Chez Mitterrand, c'était la 80e proposition, pour le PS. Chez Hollande, c'était la 30e, je crois. Sur ce qui est les organisations hors PS à gauche, ce qu'on appelle souvent l'extrême gauche, ou les Europe Écologie, bon, eux, c'est très naturel, ça a toujours fait partie
C'est plus haut dans les numéros.
Ah, c'est peut-être plus haut dans les numéros.
C'était une question, j'ai pas la réponse.
Ce qui est important, c'est que c'est surtout pour ceux qui vont avoir accès au pouvoir qu'ils mettent en place. Donc, la hauteur après, quand on n'arrive pas au pouvoir, souvent est moins forte, mais ça montre quand même un certain engagement et des choses qui seront défendues. Il y a par exemple le PRG, donc les radicaux de gauche. Eux, alors aussi, c'est quelque chose de très fort chez eux. Hein, là, on était dans une campagne de signature, le député PRG du secteur juste de l'autre côté du Rhône. Il est pour et il nous a signé sans aucun problème, hein, ce qui n'est pas alors qu'on va avoir des refus pratiquement des louvoiements chez des députés socialistes, chez des radicaux de gauche, pas de problème. Eux, ils sont tous sur cette position. Dans les organisations politiques de droite, généralement, au moins sur les dernières campagnes, c'est un refus. C'est un refus au nom de l'équation citoyenneté égale nationalité. Donc ça, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais je donne très très vite là, sur quoi se fait le clivage. Donc, pour les organisations politiques, c'est ça. Mais pour les hommes politiques, c'est différent. Parce que, alors Mitterrand, en 84 ou 85, à un congrès de la Ligue des droits de l'homme où il était venu, la question lui a été posée. Il dit, oh mais moi je suis absolument pour le droit de vote des étrangers, il faut absolument faire avancer, mais peut-être que la France n'est pas prête pour ça. Peut-être qu'il y a des traditions, il y a des coutumes en France. Et je crois qu'il avait terminé par « aidez-moi ». Oui, « aidez-moi » à essayer de faire changer les mentalités un petit peu pour accepter l'étranger. C'était un petit peu ça, pour faire en sorte qu'un référendum puisse... un référendum ou un vote du Congrès puisse
aboutir.
Aboutir. Donc... Ça paraîtrait presque un peu normal, mais ce qu'il est un peu moins, c'est qu'en 79, Jacques Chirac, c'était une sorte de congrès, d'assemblée de la francophonie, hein, où il y avait des représentants de beaucoup de pays, où il a mis en avant, alors je crois qu'il avait demandé une durée de résidence de l'ordre de 10 ans, en disant qu'il était favorable à ça. Nicolas Sarkozy s'est dit pour aussi, à un moment...
À titre personnel, si mes souvenirs sont
bons. À titre personnel, exact. Oui. Mais bon, quand un homme d'État, à l'époque futur président de la République, dit ça, bon, c'est le titre personnel, c'est une personne large, ouais, ça va assez loin. Donc, il y a eu Borloo, De Robien, Panafieux, c'est des noms, tout ça, quoi, de gens qui se sont exprimés à certains moments, disant qu'ils ne voyaient pas vraiment d'opposition à ça, que ça paraissait une évolution démocratique normale. Et malgré ça, ça n'avance pas. Ça n'avance pas en France. Donc voilà sur l'état un peu de ceux qui sont... Enfin, des partis donc favorables, défavorables, mais chez beaucoup d'hommes politiques, sans aller jusqu'à l'extrême droite, mais même à droite, où il y a eu beaucoup d'acquiescement à ce sujet.
Donc, alors, si finalement il y a beaucoup d'hommes politiques qui y sont favorables, et notamment les partis de gauche, et notamment le Parti socialiste, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui que finalement c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place? Est-ce que vous pensez que c'est difficile vis-à-vis de l'opinion, ou est-ce que c'est trop coûteux politiquement? Enfin, comment est-ce que vous expliquez ça aujourd'hui?
Je peux vous donner peut-être quelques éléments de réflexion personnelle. J'engagerai même pas l'organisation à laquelle j'appartiens. C'est un sujet qui a été considéré c'est un sujet utilisé, c'est un thème instrumentalisé, pour reprendre les mots qu'on emploie généralement, qui permet de dire en gros, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite, enfin, si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Il sert actuellement à ça, ce sujet, indépendamment de ce qu'il signifie. Donc, ce dont j'ai peur, moi, c'est, je voudrais pas avoir raison, mais là, on entre dans une période électorale actuellement, qui est la préparation des municipales. L'étranger, c'est toujours quelque chose qui a été utilisé. Le bouc émissaire, l'étranger, il y en a besoin. Et ça fait peur. Et dans beaucoup de communes, pourquoi les étrangers... se dire pour le vote des résidents étrangers, ça peut apparaître comme briser un tabou, je pense, aussi bien pour des maires de droite que des maires de gauche. Il faut absolument avoir ces étrangers pour avoir des repoussoirs, pour pouvoir dans beaucoup de communes. J'ai peur que ça soit ça. J'espère que c'est autre chose, mais je voudrais qu'on me l'explique. Mais j'ai peur que ça soit ça. C'est les phénomènes, les mécaniques électorales sont malheureusement un petit peu les mêmes dans beaucoup d'endroits, pas partout. Il y a des exemples, par exemple, sur les... Enfin, moi, c'est un autre domaine que je suis de près, qui est le domaine des Roms dans l'agglomération lyonnaise, où il y a eu des changements de position de maire en quelques mois sur cette question-là, avec des nouveaux arguments. Et j'ai peur que tout ce qui peut donner l'impression de faire perdre de l'électorat, ça soit ça qui anime avant tout beaucoup de maires. Pas tous, parce que sur les Roms, il y a un maire dans le nord, près de Lille, à Hélène, qui a installé, malgré l'opposition, une manifestation contre lui du Front National et des élus de droite, et de personnes de droite, les a installés, a dit ça sera comme ça. Mais on sent dans des périodes électorales, des variations chez beaucoup de personnes.
De nos représentants politiques.
Politiques, et y compris de gauche. C'est ça qui est un petit peu dur à voir. Et j'ai peur que pour certains, ça se traduise par le fait que ils aient des problèmes à gagner une municipalité ou à la garder, et en même temps de conserver leur âme. C'est ça qui me paraît un petit peu effrayant quand même dans ce phénomène. Mmh. Donc vous voyez, au-delà du simple vote des résidents étrangers, il y a toute cette question-là qui se pose un petit peu de comment fonctionnent ceux qui organisent la société. Et c'est bien qu'ils l'organisent en même temps, parce qu'il faut des gens pour organiser la société. Donc voilà, quand même.
On va faire une petite pause musicale avant de continuer sur le sujet.
Occidentale, la dalle pour les enfants du Darfour. Évidemment, pas d'eau potable, des lettres, des tables de maths, un cerveau pour nos chérubins. La dette, pas d'école, pas de cartable pour le petit Africain. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidentale. Des milliards de dollars par jour dans la bourse du grand capital. Un sac de riz par famille, une fois par semaine des protéines. C'est quand il n'y a pas de famine que l'Afrique mange à ce régime. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental. L'hôpital du travail tous les jours, une sécurité sociale. Trois boulots mal payés, la marmaille à faire manger, un docteur pour trois villages, le HIV qui se propage. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental. Pendant que tous les jours, le tiers monde attend son casse-dalle. L'être humain préfère à l'amour un gros tas d'argent sale. Et leurs chefs font comme tous les jours, ils grossissent leur capital. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental. Un fossé qui se creuse plus chaque jour, une nouvelle guerre, un nouvel arsenal. Pour que le ricain reste obèse, que le petit français dorme à l'aise, il faudra bien qu'on allège de leurs biens quelques pays africains. J'passe à 30 litres par jour, je vous promets, j'essaierai de faire mieux. Je regarde ce qui se passe au Darfour, je leur promets un peu plus que de l'amour. Je vais voter le cul des aristos qu'entretiennent trop bien le réseau. Africains comme occidentaux sont les victimes de ces bourreaux. Je passe à 30 litres par jour, je vous promets, j'essaierai de faire mieux. Par chez vous, j'irai faire un tour pour vous comprendre un peu mieux. Entre nous, il y aura de l'amour, des adieux, mais pour ça il faudra qu'un jour ensemble on mette dehors ces mafieux.
Oh, quelques pays d'Afrique.
Nous continuons notre discussion sur le droit de vote des étrangers. En général, on oppose toujours le droit de vote ou on relie toujours le droit de vote avec la nationalité. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui estiment que finalement, droit de vote, ça va forcément avec nationalité française et on peut voter parce qu'on est français?
Alors, si on le présente sous forme d'équation, donc ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas que les résidents étrangers votent aux élections locales disent... La Constitution dit que dans son article 3 que pour voter, il faut avoir la nationalité française. Donc, une sorte d'équation avec nationalité égale citoyenneté. La réponse qu'on sera faite, qu'on peut leur faire, mais qui est aussi une réponse sous forme d'équation, et c'est ça, c'est pas très intéressant parce que c'est les explications qui vont l'être derrière, mais l'équation serait droit de vote égale citoyenneté de résidence. C'est le mot utilisé aujourd'hui, citoyenneté de résidence, c'est-à-dire pour des gens qui habitent au même endroit ensemble depuis pas beaucoup d'années, qui ont les mêmes problèmes, dont les enfants vont à la même école, qui utilisent les transports en commun dans la commune, qui travaillent aussi dans des entreprises comme des Français, donc qui sont dans les mêmes conditions de vie. Il est difficile de comprendre qu'on ne leur permette pas de donner leur avis sur l'organisation locale de la cité qui va concerner leur vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que le mot de citoyenneté de résidence est mis en avant. Mais tout à l'heure, je parlais d'histoire. Je dis qu'il est toujours important d'avoir une vue, moi que j'appelle souvent verticale, pour une vue historique, voir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passera après, ou il y a d'autres vues qui sont des vues qu'on peut appeler horizontales géographiques, voir ce qui se passe ailleurs, essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et souvent les exemples sont pris dans d'autres pays pour essayer d'améliorer le fonctionnement d'une autre ou des nôtres. Et si on regarde dans l'histoire, la nationalité, c'est quand même quelque chose de pas simple, hein, qui a pas d'ailleurs toujours existé sous la forme forte qu'on la connaît aujourd'hui avec les États-nations. Un petit exemple, par exemple. On a eu en Algérie une loi en 1865 qui donnait la nationalité à tous les Algériens, mais sans droit de vote. Donc, une nationalité qui ne donnait pas la citoyenneté. Alors ça ne va plus avec l'équation qu'on nous donne aujourd'hui, où on nous dit, pour pouvoir voter, il faut avoir la nationalité. Il y a le contre-exemple de nationalité qui ne permettait pas de voter. Et bon, pour l'Algérie, ça a évolué, c'était très complexe, mais c'était un pays où ça a été un pays de sous-citoyenneté, même lorsqu'il y a eu des possibilités de droits de vote locaux. Donc, sur la nationalité, il faut faire très, très attention, c'est un mot comme ça qui est mis en avant. En plus, le mot nation souvent est assez fort et repris par des organisations qui sont pas les plus à gauche dans l'échiquier politique, hein. Et il nous embête beaucoup. Alors par rapport à ça, il y a citoyenneté, donc qu'on met en avant. Et citoyenneté, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je crois qu'on ne peut pas parler d'une citoyenneté. Si j'ai parlé d'une citoyenneté de résidence tout à l'heure, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui pour justifier un droit de vote de résident, donc de gens qui sont pour une résidence. Mais la citoyenneté, c'est le fait de pouvoir dire son mot sur l'organisation à un certain niveau dans lequel on est. Donc on pourrait parler, hein, j'espère que je ne vais pas trop loin dans ce que je vais avancer, mais d'une citoyenneté communale, donc celle dont on parle là actuellement et qui ferait que le vote des résidents étrangers aux élections locales devrait être possible, une citoyenneté nationale, participation aux décisions françaises, lorsqu'un train doit traverser la France, donc il y a de meilleurs trains, mais aussi la politique étrangère. Qui est très importante, ou le code du travail, un certain nombre de grandes mesures d'organisation qui touchent l'ensemble des personnes qui habitent en France. Mais on peut aussi parler, et ça c'est Maastricht qui l'introduit, d'une citoyenneté européenne. Donc c'est s'identifier à un autre niveau, qui est le niveau européen, dans un projet politique. Alors là, on ne va pas aujourd'hui discuter de ce que peut signifier un projet européen aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation, mais il y a quand même beaucoup de mesures qui vont dans ce sens-là. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, déjà l'euro est toujours là, et d'autre part, il y a beaucoup de soubresauts, mais il y a beaucoup de connexions entre des entreprises, entre l'Europe, il y a des choses qui existent. Donc, citoyenneté européenne. Et puis, il y en a d'autres. Si vous avez écouté les vœux du maire de Lyon dans les différentes mairies qu'il a tournées cette année, on parle aujourd'hui de la métropole. La métropole, quelque chose qui n'est pas vraiment la région, mais qui n'est plus la ville, qui est plus gros, et qui peut-être peut préfigurer ce que pourrait être une Europe de demain. C'est-à-dire, pas forcément des États comme en Allemagne ou de grosses régions, mais cette notion de métropole qui ferait que Lyon pourrait dire « Paris, on n'en veut plus. Paris, on n'a jamais aimé, mais on n'en veut plus. » Et dans ce cas-là, on pourrait presque parler de, peut-être, dans 20 ans, de citoyenneté métropolitaine. Un endroit où on prendrait les décisions. Et là, il serait important que tous les gens qui y habitent, quelle que soit leur origine, puissent participer à ça pour des questions de cohésion, pour des questions de cohésion sociale. Donc,
et justement, en parlant de cohésion sociale, est-ce que on pourrait aussi parler de citoyenneté et de communautarisme aussi, par exemple ?
Oui, bien sûr. C'est un argument qui est mis en avant par ceux qui sont contre, et donc en disant que c'est le communautarisme, on va alors le communautarisme quand on en parle, c'est toujours le même. Hein, c'est par rapport à la consommation de produits halal, c'est utilisation de piscines réservées à certaines heures pour les femmes, c'est-à-dire des événements qui ont été pour certains uniques, qui sont montés, qui sont présentés comme s'ils étaient universels, comme s'il y en avait partout. Il y a eu effectivement quelques revendications qu'on peut qualifier de communautaristes. Mais la première chose déjà à voir pour ça, c'est que ceux qui ont revendiqué qui ont demandé des mesures communautaristes sont français pour la plupart. Ceux qui n'ont pas le droit de vote, c'est pas ceux-là qui s'expriment dans des revendications communautaristes, dans des revendications telles que celles dont on a pu parler il y a une minute là. Ce sont avant tout des Français, parce que si vous êtes né en France, déjà avec un parent qui lui-même est né en France, vous êtes français. Si vous y êtes né, et bon, la majorité, vous pouvez le devenir. Donc, pour un certain nombre d'immigrations, la première génération qui est arrivée, qui s'est sacrifiée pratiquement, comme toutes les générations d'immigrés, elle n'est pas française, n'a pas le droit de vote, mais leurs enfants, eux, sont français, ont le droit de vote, et on en arrive. D'ailleurs, c'est un thème qu'on aborde dans plusieurs maisons de jeunes, à des parents qui sont résidents, qui ne peuvent pas voter, mais des enfants qui pourraient voter et qui ne votent pas. Entre autres, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu... Leurs parents n'ont jamais voté. Ils savent pas, ils n'ont pas été baignés dans les discussions qu'on peut avoir à table au moment des élections, parce que ce côté jeu électoral, culturel aussi, qu'on peut avoir. Et ça, c'est important pour la cohésion, que des enfants voient leurs parents voter de manière eux-mêmes à pouvoir participer à la vie citoyenne.
Et sentir citoyen, complètement.
Se sentir citoyen complètement. Mm. Et c'est quelque chose de très important. On parle des difficultés d'intégration. Il faut voir ce qu'elles sont aussi. Quand on parle des difficultés d'intégration, il faut voir aussi les réalités de l'intégration, parce qu'elles sont fortes. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui venaient des différents pays, principalement du Maghreb. J'ai travaillé pendant 30 ans d'entreprise, 10 ans ailleurs. Enfin, j'ai toujours été avec des gens qui étaient intégrés, si c'est le mot qu'il faut utiliser. Les mariages mixtes, il y en a beaucoup. Et on nous met en avant toujours que la partie qui semble poser problème. Mais c'est une partie qui posait problème en banlieue lorsque c'était les campagnes françaises qui venaient à la ville. Les blousons noirs, il y a quelque temps, j'ai travaillé sur des journaux des années 60, c'était pas triste, hein, les bagarres qu'il y avait. Bon, la religion était la même, mais si on prend Si on prend les questions de religion, entre protestants et catholiques quelques siècles avant, là aussi ça a été sûrement beaucoup plus dur que certaines menaces religieuses qu'on nous montre aujourd'hui. Donc c'est sûrement un facteur d'intégration. Et là d'ailleurs ça ouvre sur autre chose qui est un argument qui est mis en avant. S'ils veulent voter, ils ont qu'à devenir des nationaux et ils ont qu'à demander la naturalisation. Or, la naturalisation... c'est pas quelque chose de facile. Déjà, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément envie, mais qui ont envie de donner leur avis localement sur ce qu'ils font. On peut avoir un attachement, comme on peut avoir un attachement quand on vient de province française, qu'on est venu travailler à Paris et qu'on y retourne après, au moment de la retraite, on retourne à l'endroit où on était. Donc, des gens peuvent avoir ce genre d'attachement. Mais il n'y a pas que ce type d'attachement à la... c'est, je perds mes mots, à la
nationalité.
La question des naturalisations. Il y a environ, ça varie les naturalisations. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé, elles ont baissé. Elles sont de l'ordre de, je crois que c'était 90 000 la dernière année, 89 000 l'année dernière. Mais en France, il y a quand même 3 millions et quelques d'étrangers, 3 millions 5, je crois, en capacité de voter. Donc, si vous divisez 3 millions 5 par un peu moins de 100 000, ça fait 10 par 3, 5, ça fait 35 ans. Voilà. Merci. Oui, 35 ans pour pouvoir obtenir le droit de vote pour tout le monde. Bon, ça paraît un peu... oui, c'est une réponse qui... Enfin, le calcul montre que c'est quelque chose qui est une fausse possibilité. Et entre autres, les conditions de naturalisation sont devenues plus dures encore depuis quelques années. Donc, c'est quelque chose vraiment pour avoir de la haine un petit peu, enfin pour mettre du... séparer les gens pour les empêcher.
Pour cliver.
Oui, alors je voulais pas prendre le mot clivé parce qu'on l'utilise beaucoup, mais on le comprend bien le mot clivé.
Oui.
Séparer, polémiquer, et non pas chercher à comprendre des questions, des problèmes et à les résoudre.
Imaginons que les étrangers puissent voter de telle manière qu'on l'a défini en début d'émission. Qu'est-ce qui changerait ? Est-ce qu'il y aurait un engouement ? Est-ce que au niveau local, des villes pourraient passer à gauche, à droite, inversement ? Est-ce que il y aurait un changement ? Est-ce qu'il y aurait un engouement par rapport à ça ?
Déjà, je vous ai dit 3,5 millions, ça, les étrangers. J'ai les pourcentages, bon, je ne vais pas vous embêter avec, mais c'est pas beaucoup, c'est 11%, je crois, même pas. Alors, effectivement, c'est pas réparti. Il y a des endroits où il y en a peut-être il y en a plus qu'ailleurs. Mais pour le savoir, le seul moyen, là, c'est d'avoir un regard horizontal géographique et de regarder dans les pays où ça se pratique. Alors déjà, dans les pays de l'UE, il y a sur 27 pays, il y en a, je me rappelle jamais, je crois que c'est 17 qui pratiquent déjà une forme ou une autre de vote des résidents étrangers. Avec certains pays, bon, les pays d'Europe du Nord ont été les plus rapides, l'Irlande aussi, c'est l'ouverture à tout vote dès que vous arrivez. Et puis les plus récalcitrants, qui sont l'Allemagne, la France et l'Italie et l'Autriche, je crois qui sont les plus durs. Donc il y a comme ça, certains ont classé en 4 ou 5 catégories d'ailleurs nos pays. Et dans les pays des pays proches, que sont la Belgique et la Hollande, dans lesquels, alors je pense surtout à la Belgique, dans laquelle il y a les communautés marocaines et turques sont très importantes. Là, il y a eu des études de fait, parce que c'est depuis 92 et 2004, donc ça s'est fait. Donc il y a ce droit de vote droit de vote aux élections locales. Et il y a eu des analyses pour essayer de comprendre si ça profitait à certains ou pas. Puisqu'il y a eu des voix à droite en France pour dire oui, mais c'est la gauche le veut parce qu'elle veut.
Ça va modifier les rapports de force.
Voilà. Alors il semble que oui, il y ait légèrement, peut-être une inclination un petit peu à gauche, mais qui n'est pas forcément politique, qui est avant tout par rapport au contexte professionnel. Hein, pour des gens ouvriers et tout vont plus voter à gauche que d'autres. Et puis, il y a aussi un. Mais il n'y a même pas de pratiquement pas, il y en a un petit peu, dans certains cas, de préférence pour un candidat plutôt que pour un autre. Un candidat de ça qui appartient à la même ethnie, par exemple. Donc il y a eu des un petit peu ça. Mais il y a d'autres éléments importants qui sont... il n'y a pas une participation énorme. La participation, je crois, est de, il me semble, de 40% inférieure à la participation des Belges non étrangers.
Voilà.
Donc, ce sont des processus, tout ça. Ça se passe, c'est l'histoire. Hein, je reviens toujours là-dessus. Le droit de vote arrive. Eh ben, ceux qui obtiennent le droit de vote ne viennent pas tous voter immédiatement le lendemain. Je crois qu'il faut des années. Il faut peut-être une génération à chaque fois pour que ce genre de choses se fassent. Et sur le communautarisme, par exemple, il y a des éléments. Je me rappelle quand les femmes ont, pour s'opposer au vote des femmes, il était dit, elles vont voter comme les curés.
Ou comme, ouais. comme leur mari, non ?
C'était pas ça. Ah, il y a aussi comme leur mari, vous voyez.
Je sais pas.
À chaque fois. Donc, on voit bien aujourd'hui, ça paraît tellement découplé, ces choses-là, c'est plus vraiment les curés qui donnent, qui indiquent aux femmes comment voter. Et c'est un petit peu de la même manière, je crois, pour les étrangers. C'est-à-dire, on nous dit que c'est dans leur communauté, ce sont les grands idéologues qui vont leur dire comment voter. C'est pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce que recherchent les gens ? C'est à bien vivre, consommer, comme ceux qui sont autour d'eux, comme ceux qui ne sont pas étrangers. C'est ça avant tout le moteur, et beaucoup plus que vouloir développer un communautarisme qui se battrait contre tout dans ces pays. Donc cet argument est un argument qui est uniquement fait pour cliver, comme vous le disiez tout à l'heure.
Et est-ce que vous pensez que légitimement ce droit de vote aux les étrangers pourrait être accordé avant la fin du quinquennat actuel, ou finalement c'est quelque chose qui pourrait être reporté encore un certain nombre d'années ?
Ben, on a pensé à beaucoup, et le gouvernement y a pensé un peu, que peut-être pour les élections de 2014 ce serait possible. Mais il faut que les décisions soient prises très très tôt, parce qu'il est difficile de changer une constitution dans l'année précédant précédant le vote. Donc là, ce qui fait dire que le gouvernement l'a tenté quand même, c'est que il y a un peu plus d'un mois, il y a un mois et demi, je crois, le cabinet de Jean-Marc Ayrault a parlé de ce qui a été appelé le paquet constitutionnel. Alors on en parlait déjà depuis juillet dernier. C'était de proposer au Congrès, donc à l'ensemble des députés et des sénateurs, un ensemble de réformes constitutionnelles dans lesquelles il aurait pu y avoir d'autres choses, hein, sur la nouvelle vision des représentants territoriaux, sur peut-être le cumul des mandats, mais là c'était quelque chose qui aussi clivant, mais là pas forcément chez les mêmes, et comme point aussi le vote des résidents étrangers. Donc il y a eu une recherche de voir s'il y avait des alliés possibles au sein des organisations, principalement autour des centristes, hein, autour du groupe de Borloo, là, du centre. Et a priori, ça n'a pas fonctionné. Hein, il n'y a pas eu, au point de vue mesure, 3/5 de cet ensemble de nos représentants qui semblaient vouloir voter pour ça. Donc il y a eu cette tentative, mais qui ne s'est pas faite. Alors bon, ben, il faut quand même continuer. Hein, il y a des campagnes, une pétition nationale qui est signable, qui est en ligne sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Et de manière à pouvoir montrer qu'il y a du monde derrière ce qui apparaît comme un droit aujourd'hui incontournable, et qui viendra enfin.
Parce que j'ai eu souvenir d'une campagne, alors je ne sais pas qui l'avait faite, mais on demandait finalement dans les universités ou dans les mairies aux personnes de se prononcer sur savoir s'ils étaient d'accord en fait avec ce droit de vote des étrangers, mais ça remonte quand même un certain nombre de temps. J'étais encore à la fac, donc c'était pas tout récent, et moi j'avais l'impression que bon, au niveau des étudiants, mais bon, ça me paraît un peu normal que la majorité d'entre eux étaient plutôt pour. Mais comme action, à part la pétition, quelles sont les actions que vous faites au sein de votre comité pour que finalement les choses elles avancent ? Il y a du lobbying, enfin ça se passe concrètement comment ?
Alors ça dépendait des années. Bon, j'ai pas repris toute l'histoire du vote de droit des étrangers, bon, qui est passé de ses revendications professionnelles au départ, ensuite après les années 70, après les années 70-75,
les regroupements familiaux qui ont fait que les familles étaient là et que, on est passé à d'autres droits. Donc ça date des débuts des années 80, donc plus de 30 ans maintenant cette demande. Et il y a eu régulièrement, de ce que vous avez pu voir, qui sont des votes où on demande aux gens de se prononcer sur s'ils sont pour ou contre. Alors généralement, tous ceux qui se prononcent à 95%, c'est sont pour.
Sont pour.
La dernière qu'on a faite, c'était il y a 2 ans. Dans laquelle on incluait aussi, il y a eu les MJC de la région, les centres sociaux, et sur les marchés. Et là, bon, ça marche relativement bien, et c'est très pédagogique avant tout. C'est pour essayer de populariser ce thème, de montrer ce qu'il est. En plus, les gens voient à ce moment-là que leurs voisins qui sont étrangers, on rencontre des gens d'un peu partout. Il y a beaucoup de Portugais, il y a d'autres communautés importantes en France, toutes les communautés africaines qui sont là, donc ça fait beaucoup de monde, et c'est ce qui a été fait. Il y a aussi l'année dernière beaucoup plus, comme il y avait les élections qui se préparaient, auprès des députés, donc il n'y a pas eu d'utilisation des urnes, et cette année on y croyait beaucoup, il y avait cette possibilité, donc on a visé jusqu'à ces jours-ci, et on continue, sénateurs et députés. Et comme il est difficile de tout faire, on fait ça, et aussi dans les quartiers, donc principalement avec les maisons de jeunes et centres sociaux, des interventions. Hein.
D'accord. Et vous cherchez des adhérents, vous avez besoin de bénévoles, ou est-ce que tout le monde peut adhérer? Comment ça se passe?
Le collectif, le comité du Rhône est un regroupement d'associations. Donc dedans, on retrouve les organisations politiques de gauche, syndicales et toutes les associations qu'on connaît. Hein. Donc le mieux, c'est de passer par les associations, parce que c'est toujours difficile de faire vivre à la fois des associations et des individus souvent dans le même collectif. Alors c'est intéressant de passer souvent par un intermédiaire, mais tout est accepté. Et puis autour des MJC ou des centres sociaux où ça se passe, il faut bien sûr y aller.
Y prendre contact. Mm-hmm. Je pense qu'on va rendre l'antenne puisqu'il est l'heure. Et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de Grains de Sable. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Kids promise! No!